France Culture.
À voix nue, Maïlys Besserie,
Jacqueline Lafont Haïk, avocate pénaliste.
Épisode 1, du Cambodge au prétoire. Jacqueline Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci de nous recevoir ici, chez vous, à Paris, pour entamer cette série d'émissions consacrées à votre parcours. Une vie dédiée à la défense, puisque vous êtes avocate pénaliste et spécialisée dans ce que l'on appelle la criminalité en col blanc ou le droit pénal des affaires. Vous avez longtemps travaillé avec votre mari Pierre Haïk et dans votre cabinet commun, votre nom est associé aux plus importants dossiers politico-financiers des dernières décennies. Alors, Carlos Ghosn, Nicolas Sarkozy, Alexandre Benalla et bien d'autres, nous y reviendrons. Mais d'abord, commençons par votre enfance, votre famille et un pays, le Cambodge.
Oui, vous avez raison de parler du Cambodge parce que mon enfance, c'est évidemment d'abord et avant tout ma famille, mon père, ma mère, mes sœurs, aussi des grands-parents et une famille paternelle et maternelle en particulier qui a beaucoup compté, et une autre région qui a beaucoup compté aussi, qui est celle du Sud-Ouest, celle dont ma famille est originaire, les Pyrénées ariégeoises et puis aussi le Gers. Mais ce qui a probablement marqué le plus mon enfance, et je dirais l'histoire de notre famille, c'est ce départ alors que j'étais encore un bébé, je devais avoir à peu près 2 ans, sur le paquebot qui s'appelait le paquebot Cambodge. Nous sommes partis pendant près d'un mois. On a fait un mini tour du monde, on s'arrêtait dans différentes villes du monde et nous sommes partis pour 3 années pour vivre à Phnom Penh. Ma mère suivait mon père, qui avait été nommé par le ministère de la Marine, où il était commissaire de la Marine, pour aider à installer au Cambodge une marine autonome, puisque le Cambodge n'était plus un protectorat français. Et mon père avait pour mission, notamment, d'écrire les statuts de la marine Khmer.
Alors, Jacques Nafon, ce sont des souvenirs très forts de cette tranche de vie asiatique dans votre toute petite enfance, auprès de vos parents et de vos 2 sœurs.
Et de mes 2 sœurs, oui. Ça a été, je pense, un moment très important pour l'ensemble de la famille, parce que nous avons vécu, quand on partait à l'époque, donc c'était dans les années 62, 63, 64, 65, on partait en sachant que l'on ne reverrait plus aucun membre de la famille que l'on laissait en France. C'était quand même l'aventure. On vivait dans un pays dans lequel les communications avec la France étaient extrêmement réduites. Et c'était une étape importante parce que je crois que ça a été une petite parenthèse de vie exceptionnelle. Je dirais presque une parenthèse enchantée avec très tôt, très jeune, une découverte d'un pays étranger, de gens qui sont de nationalités différentes, qui n'ont pas tout à fait la même couleur de peau. Et on a vécu au rythme du Cambodge. Mes parents étaient très intégrés, très proches de très nombreux Cambodgiens, au-delà du travail de mon père, qui travaillait avec des marins Khmer et qui les formait et qui organisait la marine Khmer pour qu'elle accède réellement et concrètement à son indépendance. Et on a vécu une vie, je dirais, un peu d'aventure. On partait visiter les temples d'Angkor qui ne se visitaient pas à dos d'éléphant. On allait passer nos vacances sur une île qui s'appelait l'île de Kep, où on dormait dans une résidence qui était celle de la famille du prince Sihanouk avec la forêt vierge derrière. Et surtout, on avait une vie qui était marquée, en tout cas pour moi, le souvenir que j'en ai, par le fait que ma mère avait décidé d'ouvrir une école pour apprendre à lire et à écrire aux petits-enfants cambodgiens. Et en fait, ma première découverte de l'école, ma première découverte de l'apprentissage, ça a été dans un jardin, sous des bougainvilliers, avec des arbres en fleurs. Dans un premier temps, on était assis sur des caisses de déménagement, et puis très vite, ma mère a acheté des petites chaises en bambou, et puis des petites tables. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'abord d'autres enfants d'un autre monde.
C'est dans votre jardin que votre mère a ouvert cette école, qui est une sorte d'école maternelle et primaire.
C'est une sorte d'école maternelle. Il n'y avait pas de maternelle à Phnom Penh. Et elle avait décidé d'ouvrir ce jardin d'enfants qui permettait aux enfants d'apprendre un peu à lire et à écrire, d'apprendre aussi des rudiments de français pour aller à l'école française, qui à l'époque était l'école où les Cambodgiens qui souhaitaient que leurs enfants acquièrent un niveau d'éducation suffisant voulaient les inscrire. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ça. Nous étions dehors, dans la nature, et il paraît que j'ai du coup appris à lire et, très vite. J'assistais à ça, j'étais un petit peu plus petite, toujours un petit peu en décalage jusqu'à la fin de notre séjour où là j'étais déjà plus grande. Et c'est une expérience qui a compté pour moi parce que je pense qu'on a découvert en vivant là-bas quelque chose qui restait très ancré en nous, une forme d'altérité, d'autres gens, d'autres pays, d'autres paysages, un lien avec la nature très fort et puis un esprit de découverte et aussi d'une vie riche avec des gens très différents.
Alors vous êtes d'un milieu que vous qualifiez de gaulliste, assez catholique du côté de votre mère, assez traditionnel, mais il y a ses origines aussi, cet autre berceau qui est celui du sud-ouest, du côté du Gers et de l'Ariège.
C'est cela.
Jacqueline Lafouic, dites-nous quelques mots de cet autre berceau familial.
Alors cet autre berceau, ça c'est ce qui a été très structurant, je pense, pour l'histoire de notre famille, et les liens ont continué au point que j'ai eu pendant un an une Cambodgienne pendant les événements du Cambodge qui est venue vivre à la maison et qu'on appelait notre sœur de corps qui s'appelle Léa Kena, avec laquelle je suis toujours en contact. Et puis il y avait cet autre berceau très riche, très important pour moi, qui était celui de l'Ariège et du Gers, celui du sud-ouest, celui de mes grands-parents paternels et maternels, mais je parlerai peut-être plus de mes grands-parents paternels, même si la famille de ma mère a compté. Mais mon père était donc d'une famille, son père était officier, avait été officier dans l'infanterie, il avait fait les deux guerres. Mes deux familles étaient deux familles assez traditionnelles, catholiques surtout chez ma mère. Ma mère était très catholique, très pratiquante. À chaque fois qu'on partait voyager, il fallait qu'on aille au fin fond de la brousse et on râlait souvent voir les carmélites, aller à la rencontre des prêtres. On a quand même été élevés dans une éducation très religieuse et en même temps avec une forme d'ouverture qui m'étonne encore moi-même aujourd'hui.
Tout était scout.
J'ai été scout. On a toutes été scouts. On a toutes fait de la musique. C'était aussi une forme de d'autonomie qu'on apprenait, de vie différente, simple, rustique. Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours resté en moi, qui fait que, bon, comme tout le monde, j'aime aussi le confort, mais j'aime aussi cet aspect découverte. Ma mère nous emmenait camper. On partait dans les Pyrénées faire des voyages. Et pour revenir à ma famille, c'est une famille qui, je pense, a compté dans mon développement, dans mes choix, dans ce qui fait que je suis ce que je suis. Une famille avec des valeurs très fortes, notion d'intégrité, d'honnêteté très très forte, du courage. Mon grand-père, on était très très fiers de lui parce qu'il nous montrait sur sa cuisse les traces des balles qu'il avait blessées pendant la guerre de 14-18. Il avait été décoré sur le front, il avait eu la croix de guerre sur le front, il avait eu 4 citations dont mon père disait qu'elles étaient absolument exceptionnelles. Il avait ensuite fait la guerre de 39-40. Et puis, ma grand-mère nous racontait, parce qu'il est mort quand j'étais très jeune, que lorsqu'on avait voulu lui remettre le grade d'officier de la Légion d'honneur, on lui avait demandé de signer une attestation. C'était pendant la guerre de 39-45, selon laquelle il n'était ni juif, ni franc-maçon, ni homosexuel. Et mon grand-père avait refusé de signer cette attestation et avait répondu en écrivant que quand il avait été blessé sur le front et quand il avait été décoré, on ne lui avait pas demandé s'il était juif, franc-maçon ou homosexuel. Et pour la petite fille que j'étais, quand ma grand-mère me racontait ça, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais que c'était un exemple de courage et un modèle. Et je pense que toutes ces valeurs-là ont été importantes. Et ce qui a compté aussi pour moi beaucoup, je crois que ça a pesé sûrement dans ce que je suis devenue, c'est que les hommes avaient une place que j'admirais beaucoup, mais les femmes aussi. Ma grand-mère notamment, qui est morte à 96 ans, aveugle, et quand j'allais la voir, elle me récitait encore des poèmes de Victor Hugo. Elle avait une mémoire incroyable, de 15 strophes, des poèmes très longs. Elle était très cultivée et en fait, elle avait été très jeune institutrice. Elle avait passé évidemment le certificat d'études et puis un autre diplôme qui s'appelait le brevet, qui était l'équivalent du baccalauréat à l'époque. Elle était née, je pense, dans les années 1890, même peut-être un petit peu avant. Et elle me racontait que pendant que mon grand-père est parti faire la guerre de 14-18, elle avait donc ma tante aînée comme petite fille, et elle est allée seule continuer à enseigner sur les routes de montagne dans une petite école des Pyrénées-Ariégeoises. Elle me racontait qu'elle partait en diligence sur les routes de montagne, qu'elle arrivait dans cette classe dont les enfants souvent n'avaient pas de père, puisque les pères étaient très souvent au front, n'avaient pas beaucoup d'argent. Elle avait sa petite fille, ma tante Hélène, qui était assise dans un coin de la classe et qui, comme moi, aura appris à lire en entendant sa maman enseigner à d'autres enfants très tôt. Et elle avait été elle-même décorée parce que pendant toutes ces années-là, elle a tenu à continuer à être institutrice. Et elle disait que c'était difficile parce que c'était un pays assez montagneux, avec la neige, avec des intempéries, avec des enfants qui étaient en grande difficulté. Et on était également très fiers de ça. Et quand j'y pense encore aujourd'hui, je trouve que c'est fabuleux. Voilà.
C'est une histoire extrêmement romanesque. On imagine cette diligence. Ouais. C'est très Jane Eyre dans l'esprit. C'est très littéraire
vrai.
Comme figure.
C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé les histoires romanesques, mais celle-ci est romanesque et vraie.
Et... Il y a eu d'autres femmes de la famille qui vous ont marqué. Vous parlez de votre tante, justement, hein, la sœur aînée de votre père.
Cette fameuse sœur, voilà.
Qui, elle aussi, a été une figure importante de votre famille.
Oui, ça a été également une figure importante de ma famille parce que elle est née, donc, je pense, dans les années 1912. Encore une fois, je trouve que c'était des femmes assez d'avant-garde parce que ça n'était pas Paris. Hein, c'était quand même une région reculée, des petits villages d'Ariège. Ensuite, ils sont allés vivre dans une ville qui s'appelle Pamiers, qui est une plus grande ville, une sous-préfecture. Mais ils avaient grandi quand même dans... Et mes grands-parents étaient nés dans ces petits villages-là. Et ma tante aussi, au départ, pendant l'école que je vous évoquais tout à l'heure, elle était avec sa mère dans ces petits villages reculés. Et en fait, elle a poursuivi ses études. Et je me souviens qu'on regardait toujours chez mon grand-parent la photo de sa remise de diplôme. Elle avait une licence d'espagnol. Elle adorait la culture espagnole. Elle parlait espagnol couramment. Et elle était très passionnée d'histoire espagnole. Et donc, on voyait cette remise de diplôme en toge avec la petite toque. Et il y avait à peu près une quarantaine de garçons. Et ma tante était la seule fille sur cette photo-là. Voilà, et c'est une femme qui, elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle a perdu son fiancé pendant la guerre de 39-40, mais elle a toujours été indépendante, elle a toujours travaillé.
Une femme diplômée, cultivée.
Voilà, très cultivée. La famille était très attachée à la culture. Il y avait chez mon grand-père, qui avait appris le latin et le grec en même temps que mon père, il y avait une grande importance donnée à la culture. Et je me souviens que ma grand-mère me donnait à lire des lettres qu'elle recevait de lui quand il était à la guerre, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois revenait en boucle le fait qu'il fallait... la Seconde Guerre mondiale, mon père était né, et entre-temps, une autre tante était née, qu'il fallait qu'il continue à apprendre à lire. Et c'était quelque chose d'important. Il y a donc ces modèles-là. Et puis, il y a aussi, je pense, le fait que ma mère, qui était d'une autre famille, donc du Sud-Ouest également... une famille assez bourgeoise, n'a pas été du tout soutenue. Elle a même été interdite de faire les études qu'elle aurait aimé faire.
Qu'est-ce qu'elle voulait faire, votre mère?
Elle voulait faire des études de lettres. Elle aurait aimé enseigner, être professeure ou institutrice, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, elle voulait travailler. Et en fait, dans sa famille, seuls les garçons faisaient des études. Donc, elle a un frère qui était un peu plus jeune qu'elle, qui a été ingénieur, qui a fait par ailleurs le conservatoire de chant, parce qu'on chantait beaucoup dans la famille de ma mère, et la musique était très importante aussi. Alors ma mère faisait du piano, parce que ça faisait partie de l'éducation classique des jeunes filles de bonne famille. Mais après le bac, son père lui a fait savoir que pour elle, son jeune frère était architecte, son plus jeune frère, donc il y en avait un qui était ingénieur, l'autre qui était architecte, et elle et sa sœur, qui voulaient être médecins, n'ont pas pu poursuivre leurs études. Et je pense que ma mère en a gardé effectivement une forme de colère et surtout de volonté que ses filles soient des femmes indépendantes.
Alors malgré tout, elle a réussi à se frayer un chemin et à travailler au Cambodge. Est-ce que c'est resté pour vous une sorte de paradis perdu, le Cambodge? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous y êtes retournée, en dehors des liens que vous avez conservés avec cette sœur d'adoption?
C'est resté un paradis perdu pour toute la famille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a probablement chez moi ici des objets qui viennent du Cambodge. On regardait les films. On a vécu, je pense, des années extraordinaires au sens propre du terme. On est revenu en France toujours voyageant sur le paquebot Cambodge. Oui, c'est une sorte de paradis perdu. Et dans le même temps, c'est quelque chose qui nous a façonnés, qui nous a, je pense, rendu différents. Ensuite, l'arrivée en France, ça a été peut-être plus compliqué pour ma mère, qui a voulu continuer à travailler. Et ça a été plus difficile en France. Mais en tout cas, j'ai cette image-là d'une femme d'officier qui suivait son mari. Elle avait d'abord suivi en Tunisie, où ma sœur aînée est née. Elle avait déjà créé une école en Tunisie. Une femme qui a toujours voulu essayer de travailler autant qu'elle le pouvait et qui nous a élevés avec cette idée très forte qu'on devait avoir un beau métier, une belle vie. Et ce que ça a ouvert pour nous, cette expérience au Cambodge, c'est l'idée que la vie devait être belle. Et pour vous répondre à votre question, oui, j'y suis retournée. J'y suis retournée deux fois. J'y suis retournée la première fois avec mon père et mon parrain. Mon parrain, qui était le meilleur ami de mon père en Ariège, lui faisait ses études de médecine et mon père ses études de droit, qui était devenu médecin militaire, médecin de guerre, et qui, lui, avait vécu longtemps à Saïgon, avait créé une association pour venir en aide à l'hôpital de Phnom Penh. Et je suis revenue avec mon père et mon parrain dans les années 95. J'ai retrouvé ma maison, notre maison. Et puis ensuite, j'y suis retournée avec Pierre, mon mari, et nos deux fils.
Pierre Haïk.
Voilà, et Nathan et Benjamin. Et là, la maison avait disparu. J'étais triste de ne pas pouvoir la leur montrer. C'est devenu un quartier moderne de Phnom Penh. Mais en même temps, c'était vraiment important pour moi qu'ils connaissent cet endroit tous les trois.
Est-ce que ça a été peut-être une sorte de pont entre vous et votre mari Pierre Haïk, cette idée de paradis perdu? Lui-même était un pied noir et qui du coup était rentré d'Algérie et qui avait connu aussi cette perte d'un endroit qui était celui de l'enfance. Est-ce que vous croyez qu'il y avait quelque chose qui se... une sorte de communion autour de cette notion-là?
Je crois, sûrement. En fait, pour Pierre, le départ d'Algérie avait été quelque chose de très très douloureux. Voilà, son père et sa mère et lui étaient restés plus longtemps que les autres à Tlemcen. Ils étaient originaires d'une ville qui s'appelle Tlemcen, en pensant que ça n'était pas possible, qu'ils avaient des liens très forts, très fraternels avec les Algériens de Tlemcen, et ils avaient cru qu'ils pourraient rester là-bas. Et finalement, ils se sont rendus compte, les parents de Pierre se sont rendus compte que ça n'était pas possible. Ils ont embarqué sur un bateau et comme ils avaient des retours absolument catastrophiques des personnes qui étaient à Paris ou à Marseille ou à Nice, ils sont partis directement à Strasbourg. Et je crois que là-bas, ça a été effectivement un contraste tellement fort, une grande solitude. Et je crois que pour Pierre, ça a été quelque chose de très douloureux. Je pense que c'est un des éléments, il y en a sûrement beaucoup d'autres, qui a fait qu'on s'est compris. Oui.
Alors, dans cette éducation classique, il y avait la musique, vous l'avez dit, comme vos deux sœurs aussi étaient musiciennes, et la lecture. Alors, quand on pense à ces images d'Asie, on se dit effectivement que vous avez dû être une lectrice, Jacqueline Lafont, de Marguerite Duras, notamment, mais aussi, vous disiez, des classiques.
Alors, notamment Marguerite Duras, même si les histoires qu'elle raconte dans ses romans sont plus celles d'adolescentes. Et voilà, mais en tout cas, ce que j'aimais dans ses romans, moi, j'adore les paysages d'Asie, et c'est quelque chose qui m'est resté, les rizières. Je trouve que ce sont des paysages absolument merveilleux, ces ambiances. Et j'aimais retrouver ça dans ses lectures. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, on était effectivement plutôt, et j'étais moi en tout cas, très éperdue de romans. Voilà, j'aimais les romans, j'aimais les lectures romanesques, j'aimais les romans russes, français. J'ai beaucoup beaucoup lu quand j'étais jeune. Heureusement d'ailleurs, parce que aujourd'hui, à mon grand regret, je n'ai pas assez le temps de lire. Ça a été très important pour moi. C'était très important dans ma famille, de la même façon que l'écriture. Écrire bien, c'était quelque chose de très important.
Il y a aussi cette mixité sociale qu'on retrouve, la figure de la mendiante, des figures importantes. Vous parliez des enfants de Phnom Penh qui venaient dans le jardin à l'école avec votre mère. Il y avait aussi, ça a été un apprentissage d'une grande mixité, cette période.
D'une grande mixité qui s'est imposée chez moi, la petite fille que j'étais, et j'ai l'impression aussi chez mes parents comme quelque chose de totalement naturel. Donc c'est n'est jamais quelque chose qui a été forcé ni recherché. Ça s'est en tout cas Moi, j'étais une toute petite fille. C'était mon entourage, c'était ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a poursuivi toujours. Et c'était aussi très vrai chez Pierre. Pierre me racontait en Algérie qu'à l'étage d'en dessous, il y avait des catholiques. Lui, ses parents étaient juifs. Et puis, il y avait aussi des personnes qui étaient de religion musulmane. Et pendant les fêtes, ils s'échangeaient les repas. Donc, c'est une vision évidemment idyllique. Et je ne peux pas oublier qu'il y avait et qu'il y avait encore des choses beaucoup plus compliquées. Mais ça, ça existait aussi. Et je pense que c'était très important.
Donc, on retrouve dans les romans classiques, il y a toujours les figures populaires qui sont très importante.
Oui, c'est vrai, et c'est probablement ce que j'aimais. J'aimais, par exemple, Giono, des romans simples qui me plongeaient dans les racines provinciales qui sont les miennes, qui sont très importantes parce que je n'ai jamais vécu là-bas, en fait.
Mais vous êtes arrivée à Paris après le Cambodge.
Je suis arrivée à Paris directement après le Cambodge et je n'en suis jamais partie, à part pour quelques voyages. Mais c'est quelque chose qui fait que je me sens un peu étrangère dans un certain univers, dans certains dîners où je pense que règne une forme de parisianisme, même si je ne donne pas cette apparence, parce que je crois que je ne renvoie pas cette apparence-là, mais au fond de moi, c'est quelque chose qui fait qu'il y a une distance par rapport à certaines choses que l'on vit à Paris.
Alors, il va y avoir plusieurs événements marquants. D'un point de vue personnel, vous perdez votre mère assez jeune, à 19 ans. Vous avez démarré des études plutôt littéraires, et puis il y a ce virage pour le droit qui se fait très jeune. Après la lecture de l'affaire de Jean-Denis Bredin sur l'affaire Dreyfus, ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres qui vous a fait décider ce virage vers le droit ?
C'est un élément parmi d'autres. En fait, j'ai commencé par faire Hippocagne parce que par goût. Je n'avais pas envie d'être professeur. Je trouve que c'est un métier merveilleux, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et puis, si on parle de lecture, je pense que dans les lectures qui ont probablement compté pour moi dans ce choix qui fut le mien après, il y a deux romans qui ont beaucoup compté pour la jeune adolescente que j'étais. Il y en a eu d'autres après. Mais il y a d'abord le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Ça n'est pas quelque chose de très original, mais moi, je me souviens très bien de mon effroi en découvrant effectivement que pour avoir volé un pain, on pouvait voir un homme condamné aussi lourdement avec une vie qui bascule dans un engrenage incroyable. Et ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans ce roman-là, qui m'avait beaucoup bouleversée et frappée, que j'ai lu et relu, il y avait aussi l'idée qui me frappe encore aujourd'hui, selon laquelle, finalement, dans un cadre tout à fait légal, on peut, au nom de la loi, rendre une décision terriblement injuste. Et je trouve que le procès de Jean Valjean, c'est ça, et qu'on ne peut pas mieux l'illustrer que cela, et pour moi, ça a compté. Et puis, il y a un autre petit livre immense, qui est L'étranger de Camus. Ça n'est pas le thème principal, bien sûr, mais je me souviens de cela, et c'est quelque chose qui m'a frappée dans ce roman, de cet homme étranger à son procès, que même son avocat ne comprend pas, et qui finalement sera condamné, pas tant pour le crime qu'il a commis, que pour le fait qu'il n'a pas éprouvé, en tout cas dans le regard des autres, de tristesse à l'enterrement de sa mère. Donc cette espèce de malentendu-là, d'absence de capacité à se défendre, à expliquer les choses. Et en fait, ce sont deux lectures qui étaient des lectures parmi celles que je préférais. Et je pense qu'elles ont toutes les deux ce lien commun, en tout cas, entre deux procès qui, quand on y pense, sont tellement insatisfaisants et en fait tellement choquants.
Et dans l'affaire Dreyfus, il y a cette découverte de ce petit bout de papier qui a changé la vie de cet homme. Voilà. Et vous, c'est votre truc, Jacqueline Lafont, c'est le détail. C'est votre science un peu en tant qu'avocate, c'est que vous cherchez souvent le détail.
Oui, parce que en fait, c'est ce qui m'avait frappé, c'est ce qui est glaçant en réalité, c'est de découvrir que finalement, lorsque vous êtes dans l'engrenage de l'appareil judiciaire, qui peut vous broyer et qui peut broyer n'importe qui, même si des garanties ont augmenté aujourd'hui, eh bien, vous êtes obligé d'aller à la recherche de ce qui peut prouver votre innocence. Ça ne devrait pas être comme ça que cela fonctionne. Ça a été comme ça pour Dreyfus. Et Dreyfus a eu cette chance-là, cette chance dans son immense malheur terrifiant, d'être soutenu par
mais
des gens
qui... Mais à quoi ça tient ?
Voilà, mais ça tient à rien. Et en fait, ça tient à rien. Et ce rien-là, si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouvez pas. Et moi, quand je pense à cela, ça m'effraie toujours parce que je me dis, en fait, nécessairement, forcément, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance que l'on trouve ce petit bout de papier ou cet élément qui vous disculpe un jour et qui auront été condamnés alors qu'ils étaient innocents.
Alors, il y a un autre élément qui a compté peut-être dans ce choix. Votre père, qui travaillait au service de Pompidou, qui avait été très touché par l'affaire Gabriel Russier. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Jeanne-Claude Lafont.
Oui, alors oui, j'ai parlé des femmes, mais j'ai beaucoup parlé de mon père, qui pourtant a une place aussi très importante dans ma vie, parce que mon père, il était à la fois, c'était un homme traditionnel, de droite, il a toujours été de droite, mais ce qui était juste incroyable chez lui, c'est que l'humanité remportait toujours. C'est-à-dire que c'était ce qui primait tout le temps. Et je pense qu'on a quand même été assez fortement élevés comme ça, et je pense que c'est un point sur lequel mes parents se retrouvaient. Et je me souviens très bien du jour où mon père est rentré chez nous un soir, je devais avoir donc 9 ans, c'était en 69, quand cette jeune professeure agrégée de lettres, Gabrielle Russier, s'était donné la mort dans une cellule. Elle avait donc été condamnée en première instance parce qu'elle avait une histoire d'amour avec un de ses élèves qui avait 16 ans. Elle avait été poursuivie et à la veille de son procès en appel, elle s'était donné la mort.
Cette histoire n'avait pas été considérée comme une histoire d'amour à l'époque.
Non, elle n'avait pas été considérée comme une histoire d'amour. Alors bon, les choses sont forcément compliquées et peuvent interroger, mais en tout cas, il y avait ce drame absolu de cette jeune femme qui s'était donné la mort à la veille d'un procès. Et je me souviens de mon père qui admirait beaucoup Georges Pompidou et qui nous avait relaté, je ne sais plus si on l'avait regardé, mais je l'ai regardé tellement de fois après parce que je trouve ça tellement incroyable, ce moment d'une puissance inouïe au cours duquel Georges Pompidou donne une conférence de presse sur des sujets de politique classique. Il est interviewé à la fin par un journaliste, c'est la dernière question, qui lui demande, Gabriel Russier vient de se donner la mort, ce qu'il a pensé ou ce qu'il a ressenti. Et il y a un silence absolument incroyable qui dure et qui est pesant. Et Georges Pompidou qui répond, le président Pompidou qui répond en disant qu'il ne dira pas ce qu'il a pensé, qu'il ne dira pas non plus ce qu'il a fait, mais qu'il lit quelques vers d'un...
Il les récite par cœur.
Il les récite, vous avez raison.
Il les récite de texte, des vers d'Éluard.
C'est ça qui est incroyable. Et on sent qu'il réfléchit et il récite, vous avez tout à fait raison de me reprendre, parce que c'est ça qui est extraordinaire, des vers d'un poème d'Éluard qui s'appelle « Comprenne qui voudra ». Et si vous me le permettez, je vais vous les relire parce qu'en fait, ils ne sont pas le poème en entier, ce sont quelques bribes qu'il a choisies. Et ce poème disait la chose suivante, « Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut, la victime raisonnable, au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. » Il précise qu'il a cité Éluard à la fin de cette lecture, qui est une lecture raccourcie du poème. Et souvent j'écoute ce passage et je me dis qu'il n'y a pas de plus belle défense, de plus juste défense, de mots plus incroyables qui soient trouvés. Et ça a été un moment partagé par mon père, par ma mère, par mes sœurs, qui est resté ancré dans ma mémoire.
Merci Jacqueline Lafont. On a parlé de votre enfance, demain, vos débuts d'avocate. C'était À Voix Nue, avec Jacqueline Lafont, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Troncin, réalisation Anne de Pelchin. Une série disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.